Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 décembre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seludia et Arnold Betson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition.
La Sierra Leone a ordonné hier la mise en quarantaine d'un nouveau département pour enrayer la propagation de l'épidémie d'Ebola.
Le président Obama exhorte le Congrès à approuver avant les vacances de fin d'année les fonds d'urgence réclamés pour lutter contre cette épidémie.
En Égypte, 188 personnes condamnées à mort pour le meurtre de policiers en août dernier.
Au Liban, détention d'une femme et d'un fils du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi.
Publication du rapport 2014 de Transparency International sur la corruption dans le monde.
Des ambiguïtés encore dans le projet d'accord de paix et de réconciliation au Mali, estiment les représentants du gouvernement. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Le Nigeria a annulé la formation par des soldats américains d'un bataillon spécial qui devait lutter contre Boko Haram. La décision intervient après une semaine après que l'ambassadeur nigérian à Washington eut critiqué les États-Unis pour n'avoir pas livré des armes à l'armée nigériane. Cher Robert Dorsil.
Depuis avril, les soldats américains entraînaient un bataillon d'environ 600 militaires nigérians spécifiquement dans la lutte contre les islamistes. Selon les autorités, deux phases de cette mission ont déjà été accomplies et les soldats nigérians ont reçu des uniformes, véhicules et appareils de communication. Alors que la troisième phase allait commencer, le Nigeria a annoncé l'annulation du programme. Et sans explication, dit le lieutenant-colonel John Cantwell, attaché militaire intérimaire à l'ambassade des États-Unis à Abuja. Aucune raison spécifique ne nous a été fournie sur leur décision de mettre fin à cette formation. C'était néanmoins une réponse à notre demande d'avoir une indication claire de leur part quant à la troisième phase, a dit l'officier américain, précisant que la porte n'est pas fermée pour d'autres programmes du même genre. L'armée américaine continue d'ailleurs de former des militaires nigérians dans d'autres domaines, a-t-il souligné.
La Sierra Leone a annoncé mardi avoir ordonné la mise en quarantaine d'un nouveau département pour 2 semaines, et ce afin d'enrayer la propagation de l'épidémie dans ce pays où 5 districts sont déjà sous le coup de restrictions de déplacement similaires.
La décision de placer en quarantaine le district de Tonkolili, dans le centre du pays et dont la population est estimée à environ 400 000 habitants, a été prise lors d'une réunion de plusieurs acteurs, dont des ministres, des parlementaires et des chefs coutumiers de la région, au titre des mesures destinées à enrayer la propagation de la maladie, a affirmé à l'AFP, en porte-parole du ministère sierra-léonais de la Santé. Selon cette même source, la mesure devrait être levée le 15 décembre.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo, détenue depuis 2011 dans le nord du pays, a été transférée à Abidjan pour attendre son procès. Michel Joseph.
Maître Rodrigue Dadjé, son avocat, a assuré hier l'avoir rencontrée et qu'elle est prête pour son procès. L'ancienne première dame a quitté lundi Odéné, où elle était en résidence surveillée. Elle a été ramenée à Abidjan, mais son nouveau lieu de résidence est tenu secret. À l'instar de 82 dignitaires de l'ancien régime, elle est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État en rapport avec la crise post-électorale de 2010-2011. Leur procès devait démarrer le 22 octobre, mais a été reporté sine die. Son mari, Laurent Gbagbo, est en prison à La Haye depuis 2011. Son procès s'ouvrira devant la CPI en juillet 2015.
En Égypte, 188 personnes ont été condamnées à mort hier pour le meurtre d'au moins 13 policiers en août dernier. Claire Morin-Gibourg.
Les peines capitales prononcées par un tribunal seront confirmées ou commuées en peine de prison lors du verdict final attendu le 24 janvier. Les condamnés étaient accusés d'avoir participé le 14 août 2013 à une attaque meurtrière contre le commissariat de Kerdassa dans la banlieue du Caire. Les forces de sécurité avaient dispersé ce jour-là 2 sit-ins organisés par les frères musulmans. au moins 700 personnes avaient été tuées. C'était à peine un mois après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Depuis, ses partisans sont la cible d'une sanglante répression qui a fait au moins 1400 morts. Des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs qui ont été dénoncés par les Nations Unies.
Par ailleurs, toujours en Égypte, le procureur général se promet de faire appel de l'acquittement de l'ancien président Hosni Moubarak, qui était jugé pour complicité dans la mort de 239 protestataires antigouvernementaux lors de la répression des manifestations monstres de 2011 qui avaient abouti à sa chute. Son ministre de l'Intérieur et 6 autres responsables de la sécurité ont été également acquittés.
Ici, aux États-Unis, le président Barack Obama exhorte le Congrès à adopter avant les vacances de fin d'année les fonds d'urgence qu'il a réclamés pour lutter contre le virus à Ebola, soit 6 milliards 200 millions de dollars. Intervenant hier aux Instituts nationaux de la santé près de Washington, il a déclaré que ce serait un beau cadeau de Noël au peuple américain et au reste du monde.
Le président Obama s'est également réjoui des nouvelles selon lesquelles aucun effet secondaire n'avait été décelé pendant la première phase des tests cliniques d'un éventuel vaccin contre le virus. Mais il a averti qu'il n'y a aucune garantie que ce vaccin marchera, ajoutant que la lutte est loin d'être terminée, même si l'attention de la presse porte maintenant sur d'autres sujets.
La Corée du Nord, l'Afghanistan et plusieurs pays d'Afrique de l'Est font de nouveau partie des pays perçus comme étant parmi les plus corrompus du monde. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'ONG Transparency International. Son indice annuel de perception de la corruption est publié aujourd'hui. La note des 175 pays concernés va de 0 à 100, c'est-à-dire de corrompu à propre. La Somalie est arrivée dernière, suivie de près par le Soudan et le Soudan du Sud.
Ces 3 pays qui partagent les 5 dernières places avec la Corée du Nord et l'Afghanistan ont très peu de lois anticorruption et là où de telles lois existent, leur application laisse beaucoup à désirer. Les pays scandinaves et la Nouvelle-Zélande sont en tête de liste des pays propres et pour la 3e année consécutive, le Danemark est numéro 1. La Côte d'Ivoire, 115e par rapport à 136e l'année dernière, l'Égypte, la Jordanie et le Mali font partie des États qui ont bien amélioré leur score, selon le rapport 2014 de Transparency International. En revanche, régression pour la Chine, la Turquie et l'Angola. Le Botswana, numéro 31, reste un point fort encourageant en Afrique subsaharienne. D'autres pays de la région, le Lesotho, la Namibie et le Rwanda, ex aequo à la 55e place, le Nigeria, 136e, la République démocratique du Congo, 154e, soit 2 places avant le Zimbabwe. Nous y reviendrons sur cette question de la corruption dans la seconde partie de ce programme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Liban, les services de sécurité ont annoncé l'arrestation par l'armée d'une femme et d'un fils d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Selon les autorités, ils sont détenus pour interrogatoire au ministère libanais de la Défense après leur interpellation il y a 10 jours près de la frontière syrienne. Ils étaient en possession de fausses pièces d'identité.
Selon le journal libanais Al-Safir, l'arrestation des 2 membres de la famille d'al-Baghdadi a été effectuée, et je cite, « en coordination avec des services de renseignements étrangers ». Aucune réaction pour le moment côté État islamique. À noter que le secrétaire d'État américain John Kerry préside une réunion ministérielle aujourd'hui à Bruxelles où 60 partenaires de la coalition anti-État islamique doivent discuter des efforts politiques pour combattre ce groupe terroriste.
Par ailleurs, 7 soldats libanais ont été tués hier dans un guet-apens tendu par des hommes armés dans l'est du pays. Les précisions d'Henri Francisque.
D'après l'AFP, citant une source militaire, 7 militaires libanais ont été tués aux environs de Ras Baalbek, une région désertique près de la frontière avec la Syrie. Une patrouille motorisée est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont utilisé des armes automatiques et des roquettes. L'armée a dépêché des renforts dans le secteur et les combats ont duré plusieurs heures. Il s'agit de l'attaque la plus grave au Liban depuis celle des djihadistes en août dernier contre Arsal, une localité sunnite dans la plaine de la Bekaa. 20 soldats et 16 civils ont été tués, ainsi que des dizaines de combattants islamistes. Depuis cette date, 27 policiers et soldats libanais sont retenus en otage par les djihadistes.
Le gouvernement irakien et les autorités régionales kurdes ont annoncé hier un accord qui pourrait mettre fin à un litige sur les exportations de pétrole et le budget. Au terme de cet accord, les Kurdes permettront l'envoi de 300 000 barils depuis Kirkuk, tandis que 250 000 autres barils seront exportés de la région semi-autonome du Kurdistan à travers la Turquie.
En échange, Bagdad permettra le déblocage de fonds, 17% du budget alloué à la région kurde. Le gouvernement irakien donnera en plus 1 milliard de dollars aux forces kurdes, les Peshmerga, qui combattent les militants du groupe État islamique.
Ici aux États-Unis, un ancien secrétaire adjoint à la défense, Ashton Carter, serait le favori pour remplacer à la tête du Pentagone Chuck Hagel, qui, cédant à la pression, a démissionné récemment. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, n'a ni confirmé ni infirmé cette nouvelle, mais il a fait remarquer que le Sénat avait entériné à l'unanimité sa précédente nomination au poste de numéro 2 du Pentagone. C'est très important, fait-on remarquer, dans le climat politique qui prévaut actuellement à Washington entre démocrates et républicains.
Et États-Unis toujours, la ville américaine de Détroit, dans le Michigan, a été totalement plongée dans le noir hier à cause d'une panne d'électricité majeure. Eddie Isango.
L'ancien fleuron de l'industrie automobile américaine a perdu son lustre. Tous les bâtiments publics ont été privés d'électricité. Les médias locaux ont fait état de plusieurs personnes bloquées dans les ascenseurs de la mairie qui a été évacuée. Les palais de justice ont été fermés. 87 des 97 écoles publiques n'avaient pas de courant. Les températures étant très basses, les élèves ont été renvoyés chez eux. Le système des trains sans conducteur a dû suspendre ses opérations. Aucun feu de circulation n'est fonctionné, créant des embouteillages monstres par endroits. La police a dû prendre position pour régler les trafics. Cette panne de courant intervient alors que Détroit, plombé par une chute des recettes fiscales, s'était placé en juillet 2013 sous le régime des faillites pour se mettre à l'abri des créanciers.
Voilà pour le journal. Merci Anne Albertson, Washington. VOA Afrique sur la voie de l'Amérique. Le projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, proposé par la médiation, est une avancée vers la conclusion d'un accord de paix. C'est ce qu'ont laissé entendre les représentants du gouvernement, tout en signalant tout de même des ambiguïtés dans le projet concernant des questions clés. Notre correspondant Kassim Traoré était à la conférence de presse de l'équipe du gouvernement malien. Voici son compte-rendu.
Le gouvernement malien partage les grandes lignes du projet d'accord pour la paix et la réconciliation remis par la médiation aux différentes parties prenantes au pourparlers d'Alger. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité des personnes âgées et de la Reconstruction des régions nord.
Qu'il s'agit essentiellement d'un document de base pour la négociation. Ce n'est pas un document consensuel sur l'étape de la négociation qui vient de s'achever. Mais il est différent du document précédent en cela que, d'abord, il est l'entame d'un processus de négociation effectif.
Le ministre Konaté fera savoir qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le document.
Vous verrez qu'à certains moments, on dit État au singulier, à d'autres moments, on dit État au pluriel dans le même document. On parle de région intégrée. Il se trouve que ça fait partie des points pour lesquels des questions ont été posées et des désaccords ont été exprimés. Mais le fait d'avoir dans le document région au pluriel et région au singulier, c'est une ambiguïté.
Les différentes préoccupations liées à l'élection d'un député qui est de 60 000 habitants pour les régions du sud et 30 000 pour les régions du nord a été élucidée par le ministre Ousmane Sy, ministre de la décentralisation et de la ville.
Le problème n'est pas la taille de la population pour élire un député. Le problème est le système électoral parce que nous avons aujourd'hui un système électoral qui est majoritaire. Les diversités ont du mal à être être perçue. Ça, ce n'est pas au nord simplement, c'est sur tout le territoire. Comment nous allons promouvoir un système électoral qui permette l'expression de plusieurs minorités? Ça, c'est une question qui concerne l'ensemble du Mali.
Pour le ministre de la Réconciliation nationale, la signature d'un accord de paix à Alger n'est pas synonyme à un retour à une paix définitive. Zabi Ould Sidi Mohamed.
Il y a une autre guerre que tous les Maliens doivent engager. C'est la guerre contre le terrorisme. Et ça, personne ne la fera à notre place. Ce serait l'armée malienne dans toutes ses composantes, une armée nationale. Maintenant, ceux qui sont des éléments à problème, mais il faut leur appliquer le règlement, qui qu'il soit. Mais parce que ce territoire aujourd'hui, il est occupé par des forces que vous avez vues ne seront pas faciles à déraciner.
Lors de la prochaine étape prévue au mois de janvier à Alger, il s'agira pour les participants de paraffer les pré-accords avant sa signature au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous revenons comme promis sur la corruption. Dans son rapport détaillé sur la corruption publié mardi, l'OCDE remet en cause l'idée selon laquelle seuls les pays en développement seraient concernés par la corruption d'agents publics lors de la signature de contrats internationaux. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, la corruption frappe durement les pays développés. Par ailleurs, Transparency International a publié ce matin son indice annuel de perception de la corruption. C'est pour constater que les pays africains n'ont pas progressé depuis la publication du dernier indice il y a un an. Chantal Ouimana, directrice pour l'Afrique à Transparency International.
Malheureusement, c'est ça, en fait, le constat que je dois faire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement en termes de perception de la corruption dans les pays africains. Il y a cependant deux ou trois pays où on voit qu'il y a quand même une légère amélioration dans la perception de la corruption, et ça, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali essentiellement.
Mais en même temps, Transparency International évoque une évolution des mentalités.
Quand on analyse d'une année à l'autre, les changements ne sont pas très visibles. Il faut quand même se rendre compte qu'au fil des années, il y a une conscience plus prononcée des citoyens en général que la corruption constitue quand même une entrave majeure au développement du continent. Et c'est aussi réconfortant de voir que de plus en plus de pays reconnaissent qu'il faut prendre en compte des aspects de lutte contre la corruption et les questions de gouvernance de façon globale. Mais ce qui est quand même triste, c'est qu'il y a quand même encore un niveau élevé d'impunité par rapport aux actes de corruption. Donc c'est ça aussi qui fait que d'un côté, on voit les gouvernements, les États qui prennent des mesures, qui adoptent des lois, mais après, quand il faut les mettre en œuvre et arriver au moment où tous ceux qui sont impliqués dans des actes de corruption sont amenés devant la justice et subissent les conséquences qui devraient en découler, on voit qu'il y a encore du chemin à faire.
Chantal Ouimana, directrice pour l'Afrique à Transparency International, a été jointe en Allemagne par Camille Grodidier. Pour parler encore corruption, le président du Malawi, Peter Mutharika, fait l'objet de vives critiques pour avoir offert à plus de 80 journalistes des enveloppes contenant 125 dollars chacune lors d'un dîner le mois dernier à Blantyre. Les médias malawites se moquent de cette manne, d'autant plus que les enveloppes avaient été présentées comme contenant le plan du président pour la presse nationale. Jean-Roger Bion.
La nouvelle fait des vagues dans le pays, soulevant des questions d'éthique et de déontologie. Dans sa chronique publiée par le Niassa Times, le professeur de droit Denwood Nzikenge Shirwa affirme que le fait pour le président Mutharika de donner de l'argent à des journalistes équivaut à de la corruption. Il a appelé le chef de l'État malawite à démissionner ou à faire face à une procédure de destitution. La société civile locale a fait savoir pour sa part qu'en tentant de soudoyer les journalistes, M. Mutharika a porté un coup sérieux à sa crédibilité. Certains journalistes n'ont pas hésité à offrir l'enveloppe reçue à des œuvres de charité. C'est le cas de Brian Ligomeka, rédacteur en chef du Times, et de trois autres employés de ce groupe de presse qui ont fait don de l'argent présidentiel à un orphelinat.
Au début, nous avons décidé de rendre l'argent au président, mais nous avons pensé plus tard qu'il était sage d'acheter des articles comme du sucre, du sel, des ordinateurs portables et de les donner aux enfants nécessiteux.
Les journalistes sont pris pour cible dans les critiques pour avoir laissé tomber le public, dont la confiance à leur égard est sans réserve. Mais pour certains, refuser l'argent séance tenante aurait été perçu comme un manque de respect au chef de l'État. Marc-Len Kanyangwa dirige le département de journalisme et des médias à l'École polytechnique de l'Université du Malawi. Il a rappelé que le code de déontologie des médias stipule qu'un journaliste ne doit pas accepter de contrepartie financière pour son travail.
Évidemment, la réunion au palais était un événement d'actualité. Il y avait une possibilité que quelque chose soit publié. Et dans ce cas, ce paiement aurait influencé la décision du journaliste dans le traitement de l'information, ce qui est un problème.
Le professeur Kanyangwa a le pressentiment que beaucoup de journalistes n'ont pas retourné l'argent immédiatement par manque de vigilance éthique. Le gouvernement n'a pas réagi sur la polémique. Toutefois, certaines autorités estiment que le paiement n'était pas un pot de vin, mais un remboursement de carburant à ceux qui ont pris part à la réception.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur la pandémie du sida qui continue notamment d'affecter l'Afrique subsaharienne. Pour beaucoup d'ONG, l'urgence de la crise Ebola ne doit pas reléguer la lutte contre le sida. Vos commentaires sur la page Facebook de la VOA ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h PU sur VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, pendant que le monde entier commémorait la journée de lutte contre le sida, les personnes vivant avec le VIH à Goma ont fait un sit-in à l'hôtel du gouvernement provincial du Nord Kivu pour exiger le décaissement des fonds destinés à leur prise en charge. En effet, c'est depuis plus de 2 ans que les ONG internationales ont coupé leur assistance à ces personnes laissées ainsi à la charge du gouvernement congolais. De Goma, notre correspondant Primo Pascal Odahigwa.
Ces personnes vivant avec le VIH étaient tous habillés en noir pour manifester leur colère. Ils ont exigé aux autorités provinciales de débrousser sans délai l'argent destiné à leur prise en charge et dans les cas contraires, ils vont rentrer dans la clandestinité.
Les bénéficiaires sont traumatisés et rejetés et marginalisés de la communauté. Et j'avais dit auparavant que ce sont des gens qui ont déjà sorti de la clandestinité. Et ils croyaient qu'ils peuvent être pris en charge globale. Mais comme on tente de prendre la prise en charge là qui n'est pas normale, ils ont décidé de rentrer dans la communauté pour contaminer les gens.
Ils ont dit également qu'ils sont en difficulté depuis que l'ONG Médecins du Monde a coupé son assistance. Le conseiller politique du gouverneur du Nord Kivu, Roger Malinga, a apaisé les manifestants en ces termes.
Oui, c'est prévu par notre budget, et même le budget l'année passée. Si ça n'a pas été décaissé l'année passée, c'est compte tenu de tous les problèmes que nous avons, donc les problèmes liés à la sécurité. Pour le moment, le gouverneur a accédé à leur demande et il a même instruit le ministre des Finances de voir comment libérer un petit fonds pour les appuyer.
Les PVV n'ont plus confiance car cette promesse a longtemps duré.
C'est depuis le mois de janvier 2014, on avait promis qu'on va décaisser ce montant. Nous sommes à la fin de l'année, le 1er décembre c'est presque à la fin de l'année. Il n'y a pas une feedback, il n'y a pas une suite concernant ces décaissements. Alors on ne sait pas comment on va se comporter et pourtant parmi les PVV il y a beaucoup de décès.
Le bras de fer est donc engagé entre ces personnes affectées par le sida et le gouvernement provincial du Nord Kivu qui devait honorer le plus tôt sa promesse pour protéger la communauté. Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En France, Marseille pourrait bien perdre le leadership de la Ligue 1 dès ce soir.
Oui, Marseille a été tenu hier soir en échec par une vaillante équipe de Lorient. Un but partout, ce match nul met la première place de l'OM à portée du Paris Saint-Germain en déplacement à Lille ce soir pour le compte de la 16e journée du championnat de France.
En Espagne, on connaît déjà le tout premier qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Roi.
Oui, il s'agit du Real Madrid, tenant de cette même Coupe du Roi. Le Real s'est adjugé hier le premier billet pour les 8e de finale de cette compétition en balayant 5-0 la modeste équipe de 3e division Cornella. Notons que le Real va participer au Mondial des clubs au Maroc du 10 au 20 décembre.
Mario Balotelli a présenté ses excuses hier pour un message posté sur les réseaux sociaux.
Oui, ce message était censé lutter contre le racisme de façon humoristique, mais utilisait des stéréotypes racistes et antisémitiques. « Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un », a déclaré sur Twitter l'attaquant italien de Liverpool. « C'était un message d'humour contre le racisme », a poursuivi Balotelli. La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête et Balotelli encourt 5 matchs de suspension.
En football toujours, Pelé va mieux.
Oui, 5 jours après avoir alarmé le monde entier sur son état de santé, la légende du football brésilien Pelé, âgé de 74 ans, a quitté hier mardi les soins intensifs et aurait même déjà demandé sa guitare pour jouer. L'état de santé du roi Pelé avait inquiété depuis jeudi dernier quand l'hôpital où il avait été admis 3 jours plus tôt pour une infection urinaire avait indiqué qu'il se trouvait dans un état clinique instable. Et pour terminer, Idrissa, quelques résultats de la NBA.
Les Los Angeles Lakers 106, Détroit 96. Brooklyn Nets 98, New York Knicks 93, Dallas 132, Chicago 129. Et maintenant, la page musicale de Roger Muntu. Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa. David Guetta, artiste de la mondialisation. À 47 ans, il a su parfaitement faire le lien entre la musique et ce qu'aiment les gens. Les Américains en sont convaincus. Dès l'hebdo de l'industrie musicale à Billboard, au magazine de culture pop à Rolling Stone, on s'accorde à écrire qu'il rassemble toutes les qualités du producteur, faiseur des hits et magicien des pistes de danse. Ce matin, on l'écoute dans Without You, en featuring avec Usher.
I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you.
David Guetta a commencé sa carrière comme DJ. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 30 millions de disques vendus à travers le monde depuis 30 ans.
Oui, Idrissa, c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été surnommé le hit maker. David Guetta a donc commencé dans les années 80. En déplacement, il compose sans arrêt, seul ou avec un de ses meilleurs collaborateurs, Fred Wister, sur un petit clavier relié à son ordinateur. Être DJ, ça aide certainement à composer, Idrissa.
David Guetta et Usher dans Without You. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie. Un grand coucou ce matin à notre grand auditeur Mamadou Houry Barry à Dakar au Sénégal.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel.
I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you, without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you, without you. You. I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind without you.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Serudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la voie de l'Amérique.